Et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent aussi directement en ligne. Un beau chant, hein? La mort et le péché n'a plus de pouvoir. Et quel vraiment une belle, beau message de l'Évangile. C'est ça le message de l'Évangile. Eh bien, je vais commencer avec une question. Quelle est la raison numéro un? C'est pas une question qu'on se fait poser souvent. Mais quelle est la raison numéro un que votre bouche a été créée? Eh bien, un homme du nom de Jimmy Evans a fait l'observation suivante. Il dit, « Votre bouche a été créée par Dieu, pour le louer, l'adorer et l'aimer. » Eh bien, c'est le message qu'on va voir ce matin dans cette dernière portion du livre aux Hébreux, comme ça a été annoncé ce matin. Nous terminons la série ce matin. On tombe dans le Hébreux chapitre 13. Et puis, dans cette belle série, une vingtaine de messages, de discours que vous pouvez avoir, vous pouvez regarder directement en ligne si jamais vous avez manqué quelques discours. Et puis, avec le thème « Jésus meilleur que tout ». Eh bien, j'aimerais commencer en lisant justement la portion des Écritures qu'on veut regarder ce matin. Alors, Hébreux chapitre 13. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage à tourner avec moi et on va lire ensemble les 6 premiers versets. D'accord? Donc, Hébreux 13, versets 1 à 6. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai point peur de rien. Que peut me faire un homme? » Eh bien, prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, alors qu'on termine ce magnifique livre, quelle richesse, quel beau trésor on a découvert à travers cette série. On te prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs. Et que tu puisses, par ton Esprit Saint, illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse voir et entendre ta voix parler à travers ta parole. Cette parole qui est inspirée, une inspiration verbale, plénière. Alors merci de nous avoir laissé cette lettre d'amour pour nous faire te connaître, pour te révéler à nous. Alors nous te prions que tu puisses nous bénir ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, pourquoi avons-nous été créés? Pourquoi avons-nous été sauvés? Un terme qu'on va retrouver plus d'une fois dans le Nouveau Testament, qui parle de ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi nous avons été sauvés? Bien, nous sommes un peuple qui adore. L'auteur Samuel Atzakortzian, dans son livre « Créé pour adorer Dieu », a dit, le premier objectif du salut en Jésus-Christ n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi de nous permettre de retrouver notre communion avec Dieu et d'être à nouveau en mesure de l'adorer. Et c'est ce pourquoi nous avons été rachetés. Nous sommes un peuple mis à part pour la louange de Dieu. La Bible dit clairement que nous étions perdus dans notre péché, destinés au jugement. Mais à plusieurs reprises à travers cette série du livre aux Hébreux, ce que nous avons vu, c'est que ce livre nous rappelle la bonté de Dieu lorsqu'il nous a envoyé son Fils pour nous. Quelle démonstration d'amour en ce qu'il a envoyé son propre Fils unique mourir sur la croix pour nous, là où il a déversé son sang pour nous afin de nous laver de toute souillure, de tout péché, afin de nous accueillir dans sa présence. D'ailleurs, l'auteur du livre aux Hébreux nous a montré que par Jésus, notre Sauveur, nous avons maintenant accès dans la présence même de Dieu, être en communion intime avec Dieu par la foi. Et un jour, on va pouvoir profiter pleinement et à la perfection, cette communion et cette intimité avec Dieu. Et à cause de cela, à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous sommes appelés à être un peuple qui l'adore. Nous voulons lui offrir notre adoration. Hébreux 12, 28, ça c'est justement le chapitre qui précède le chapitre 13, ça dit ceci, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Alors, on veut rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un Dieu, un feu dévorant. Nous sommes appelés à adorer notre Dieu. Et on peut se poser la question. La question qui nous vient à l'esprit dans ce temps-là, c'est mais comment on fait ça? Comment on adore Dieu? Qu'est-ce que ça signifie, ça, offrir nos louanges et adorer Dieu? Ça semble être abstrait. Est-ce que c'est chanter le dimanche matin? Est-ce que c'est ça, adorer Dieu? Mais c'est certainement l'une des plus belles manières que l'on puisse offrir à Dieu notre adoration. C'est vraiment par le chant, par l'adoration et la louange. Mais ce n'est pas, ça ne suffit pas, ce n'est pas juste ça. On ne vient pas simplement dans la présence de Dieu lorsqu'on se met à chanter. Non, on est continuellement dans la présence de Dieu grâce à Jésus et grâce à l'Esprit-Saint qui vit en nous, qui habite en nous. Alors, si on appartient à Dieu, si on a placé notre foi en Jésus-Christ, et si nous avons la foi en Jésus pour avoir la vie éternelle, nous sommes dans sa présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, nous sommes appelés à l'adorer à chaque moment, toute la semaine. Alors, comment l'adorer? Maintenant, on sait à quoi ressemble un adorateur du dimanche. Mais à quoi ressemble un adorateur du lundi? Ça a l'air de quoi, ça? Eh bien, Hébreux 13 nous donne la réponse, parce que voyez-vous, Hébreux 13 est le manuel de l'adoration pour la semaine. Ça commence au verset 1, Hébreux 13, verset 1, qui dit ceci, « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et ce verset, verset 1, va pas mal résumer tout ce qui va suivre après. L'adoration authentique ressemblera à de l'amour fraternel au sein du peuple de Dieu. Puis c'est vraiment intéressant de constater à quel point l'amour, c'est partout dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment important dans la pensée de Dieu pour la vie chrétienne. C'est partout. Le cœur de la vie chrétienne et le plan de Dieu pour son peuple se résument en termes d'amour les uns pour les autres. Mais maintenant, le chapitre 13 apporte une exhortation qui est un petit peu différente, par contre, des autres passages. On va lire dans d'autres passages du Nouveau Testament, « Aimez-vous les uns les autres ». Mais ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « persévérer dans l'amour », »,« continuer dans l'amour ». Pourquoi nous dire « persévérer dans l'amour » ? Pourquoi pas simplement dire « Aimez-vous les uns les autres » ? Bien, parce que le Seigneur sait, n'est-ce pas, que l'amour, ça peut se refroidir. Et tu rentres à l'église ici, et c'est une des choses qui nous frappe vraiment quand on s'ajoute à l'église, qu'on vient, on joint à l'église évangélique, ici au Sentier. Une des choses que j'entends régulièrement pour les nouveaux qui nous visitent, c'est « bon sang qu'il y a de l'amour ici ». Pas vrai? Hein, on entend ça, c'est la première chose. Moi, ça m'a frappé vraiment lorsque je me suis joint à une église, de voir l'amour des gens. Et j'entends ça constamment. On va chez vous, puis on voit l'amour. Alors là, tu joins à l'église, puis là, tu rentres, puis tu vas te convertir à Jésus-Christ, tu vas te faire baptiser, tu deviens membre, tu t'impliques, les années passent, puis tu t'impliques. Puis là, tout d'un coup, tu as des quoi? Des accrochages. Avec qui? Avec d'autres frères et des sœurs dans le Seigneur. Est-ce que ça se peut, ça? Absolument. Et qu'est-ce qui arrive avec le temps? C'est qu'il y a des accrochages, il y a des collisions, il y a des gens qui vont te blesser parce qu'on est pécheurs. Et puis, ce qui arrive, c'est que peut-être qu'il y a des gens, tu vas quitter l'Église à cause des blessures. Ton amour va s'atténuer. D'ailleurs, j'ai appelé quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je lui ai demandé, je l'avais à cœur et je ne comprenais pas pourquoi on ne la voyait plus à l'Assemblée, je m'inquiétais, alors je me préoccupais, alors je l'ai appelé, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je t'ai blessé, ou est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée t'a blessé. Et la personne a dit, oui, on a quitté l'Église, toute ma famille, on a quitté l'Église parce que justement, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui nous a vraiment blessés. Mais vois-tu ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que l'adorateur authentique du Dieu vivant persévère dans l'amour fraternel. Alors, on ne fait pas juste commencer dans l'amour fraternel, on va s'investir dans les relations les uns avec les autres. On persévère à travers les hauts et les bas, et ça demande, c'est sûr, de l'humilité. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à persévérer dans ces relations d'amour-là. Et maintenant, comment ça se traduit, ça, cette manière d'aimer dans notre quotidien? Comment s'aimer de manière à ce que nos relations plaisent à Dieu et glorifient Dieu? Bien, premièrement, on glorifie le Seigneur en nous aimant les uns les autres, en s'offrant l'hospitalité, en ouvrant les portes de notre foyer, en se recevant les uns les autres. Voici ce que ça dit au verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » Un aspect essentiel de l'amour fraternel, c'est de faire preuve d'hospitalité envers des frères et des sœurs, et parfois même des frères et des sœurs qu'on ne connaît même pas, mais on veut ouvrir notre foyer, on veut être accueillant, et on veut recevoir les gens à la maison. Alors, pourquoi c'est si important? Pourquoi la Bible met tant l'accent sur l'hospitalité? Parce qu'après tout, c'est tellement important que c'est même l'un des critères pour être un ancien, pour être un pasteur, que l'on va retrouver dans une des lettres de Paul dans Timothée. C'est un critère que l'ancien soit hospitalier. Alors, pourquoi ça fait partie des manières dont on peut honorer le Seigneur et le glorifier? Bien, on a juste à penser à notre foyer, notre résidence. Le foyer, c'est l'endroit, c'est vraiment ton endroit de ton refuge. La place où tu peux te réfugier, te reposer. Tu arrives, tu es fatigué, tu rentres à la maison. Tu as hâte d'arriver à la maison. C'est l'endroit, c'est le confort. C'est là que tu trouves les gens que tu aimes, que tu chéris. Bien, ouvrir notre foyer, ouvrir notre amour et se mettre au service des autres, c'est vraiment fondamental comme enfant de Dieu. S'accueillir les uns les autres, se recevoir les uns les autres. C'est même un signe très fort du lien maintenant qui nous unit les uns les autres. Parce que nous faisons partie d'une grande famille. Nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et c'est un message que nous faisons chaque fois que nous ouvrons nos portes et que nous nous aimons les uns les autres, que nous faisons partie de cette grande famille. Moi, je suis allé dans une église apporter un message dans une église roumaine. Je ne parlais même pas la langue. Et puis, une église slave et à Paris. Et puis, bon sang, j'ai été accueilli là comme un roi. Les gens m'ont fait sentir tellement plein d'amour. On a été accueillis par un pasteur que j'avais jamais, que je connaissais pas. Et puis, il nous a reçus. Il a été tellement généreux avec nous. Et vous savez quoi? Je me sentais comme un frère. Et c'est ça. Quand on se reçoit, on est hospitalier, on ouvre notre foyer, on veut aimer. On est en train, justement, c'est un message que nous sommes en train de donner, que nous faisons partie d'une grande famille. Et l'idée du Seigneur ici, c'est que notre foyer soit comme un actif entre les mains de Dieu, comme du royaume de Dieu. Un actif du royaume et un atout pour servir les autres. Alors, pourquoi ne pas se servir de notre résidence, par exemple, pour entourer les personnes seules de l'Assemblée? Peut-être des gens même qui souffrent, des couples qui ne vont pas tellement bien. On veut les accueillir, les aimer, les chérir, qu'ils se sentent aimés, qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est ça, voir notre foyer, notre résidence comme un atout pour le royaume de Dieu. En d'autres mots, c'est comme si le Seigneur nous disait que ta maison soit un lieu de refuge et de bénédiction pour les autres. Un lieu pour offrir de l'amour éternel, de l'amour fraternel. Et qui sait ce qui peut arriver? Hébreux nous dit même qu'à travers l'hospitalité, certains ont logé même des anges. Maintenant, ça, c'est vraiment particulier. C'est fascinant, toute la doctrine des anges. Il y a même un livre, un classique de Billy Graham, si vous ne l'avez jamais lu, c'est vraiment inspirant. « Les anges, agents secrets de Dieu ». J'espère que vous avez lu ce livre, c'est tellement édifiant, des témoignages incroyables. C'est vraiment beau. Mais c'est fascinant, ça. Et on ne connaît pas beaucoup de détails sur les anges dans les Écritures, c'est pas comme si on avait plein de détails. Mais c'est un bon rappel, ici, dans ce passage, que les messagers célestes sont bel et bien réels et ils sont actifs dans le monde. Et on ne sait pas exactement comment ils agissent, mais c'est là. Mais le point ici, c'est tout simplement que l'hospitalité, c'est important. Le point aussi, et c'est qu'on ne sait pas exactement ce que le Seigneur peut faire et qui va envoyer chez vous. Peut-être que tu ouvres ton foyer pour bénir quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, mais en fait, c'est un rendez-vous divin que Dieu avait préparé afin de te bénir et te faire du bien. Combien de gens, nous autres, des fois, qu'on a reçus à la maison et sont venus. Et nous, on voulait les aimer, leur offrir la nourriture et tout ça. Pour finalement, au bout de soirée, c'était nous. Il y avait, à travers les discussions, Dieu a parlé à mon cœur, a corrigé des pensées peut-être erronées que j'avais. Et cette personne-là est devenue une bénédiction pour moi. Alors que c'est moi qui voulais offrir cet accueil. Et c'est un peu le message ici que le Seigneur nous laisse. On glorifie le Seigneur en nous aimant les uns les autres, en offrant l'hospitalité, mais aussi en se rappelant des chrétiens persécutés. Vous savez, ce livre aux Hébreux a été écrit à des chrétiens à plusieurs chrétiens qui souffraient de persécutions, qui se faisaient mettre dehors des synagogues et même perdaient leur emploi parce qu'ils avaient placé leur foi en Jésus. Et ici, nous voyons verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » Il est question ici de persécution chrétienne, des chrétiens qui se font mettre en prison en raison de leur foi. Et c'est ce qui arrivait. Et on fait partie de l'Église universelle, on est une grande famille à travers le monde. Et même si c'est des chrétiens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde, on ne veut pas fermer les yeux pour ne pas être sensible à ces chrétiens qui souffrent. On veut vraiment prier pour eux et on veut intercéder pour eux. Et si on peut aider, on veut le faire. Il y a un mois, un rapport est sorti, un rapport très choc qui a été publié par le Korea Future Initiative au sujet de la persécution religieuse en Corée du Nord. Et c'est un recueil de 117 témoignages qui ont été recueillis pendant plus de 7 mois de survivants, des témoins, mais aussi des auteurs de persécution. Le rapport dénonce des arrestations, détentions, interrogatoires, arbitraires, punitions des membres de famille, tortures, agressions physiques soutenues, violences sexuelles et même exécutions. Le rapport est ponctué d'extraits très glacés de ces témoignages. Écoutez bien quelques-uns de ces témoignages de gens qui ont passé par la souffrance. Voici ce qu'il dit. « Quand j'étais au centre de détention provisoire, les agents correctionnels ont fait pendre les femmes aux barres d'acier comme des singes. C'était tellement inhumain et humiliant. J'ai été tellement battu en prison, les barres d'acier des prisons nord-coréennes sont épaisses. Les officiers attrapent vos cheveux et vous cognent la tête contre les barres d'acier. Ils inclinent le cou d'une personne vers l'arrière. Ils mélangent la poudre de poivre rouge dans une bouilloire et versent l'eau dans les narines. Au début, ils vous tiennent fermement en vous attachant par l'arrière, en éternuant et en toussant, vous dites de fausses déclarations sur des choses que vous n'avez jamais faites. L'organisation Porte ouverte rapporte qu'au cours de la dernière année, plus de 3 000 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. 10 000 bâtiments comme des églises ont été attaqués. 4 000 chrétiens ont été arrêtés sans procès. Ils ont été arrêtés, ont reçu des sentences et même quelques-uns ont été exécutés. Le ministère Porte ouverte, qui publie chaque année un index mondial de persécution des chrétiens, rapporte qu'en 2020, 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Ça, c'est 1 sur 8. Ce qui est frappant dans les statistiques, c'est le rythme de progression. Par exemple, en 2018, 215 millions de chrétiens persécutés, 1 sur 12. En 2019, 245 millions, 1 sur 9. Et en 2020, 260 millions, 1 sur 8. Vous pouvez donc vous inscrire à Porte ouverte, puis être informé, gardé à jour et prier pour ces gens qui souffrent à travers le monde. Persévérons dans l'amour fraternel en nous souvenant des chrétiens persécutés et en priant pour eux. Il y a même un dimanche par année qu'on veut mettre de côté à l'Église, le dimanche des persécutés, et prier pour spécialement ce matin-là, lors du service, pour les persécutés. Mais on veut le faire régulièrement à la maison. Troisièmement, on glorifie le Seigneur également en honorant notre mariage. Verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. » Maintenant, le point ici, c'est qu'on a besoin de vraiment s'investir dans les relations de couple, dans notre couple. Et vous savez, on vit dans un monde tellement sexuel aujourd'hui, on est bombardé avec des affiches, des films, de la pornographie, tout ça. C'est très facile de glisser, tout ça. À un moment donné, on peut être envahi par la culpabilité. Mais le point ici, le message ici, c'est que le Seigneur veut qu'on se repente, qu'on vienne au Seigneur, parce que nous avons un Dieu de grâce. Après tout, n'oublions pas le Dieu qui a choisi David, le polygame, l'adultère, le meurtrier. Il en a fait le roi d'Israël, de son peuple, et non seulement ça, le précurseur du Messie. Nous avons un Dieu de grâce. Ce que le Seigneur veut, ce qui nous sommes de faire, c'est de revenir à Dieu très humblement. Mais cela étant dit, il faut savoir qu'un grand pourcentage des adultères, ce n'est pas une question sexuelle au début. C'est un problème avec le couple au départ, la relation. Voici ce qui se passe. Nous sommes des pécheurs et nous aurons des conflits. Connaissez-vous un couple qui n'a jamais eu de conflit? J'en connais pas. Honnêtement, je n'en connais pas. Mais j'aimerais vraiment m'arrêter puis vous donner quelques conseils. 3 conseils, d'accord? Premièrement, on a vraiment besoin de travailler sur notre communication. Ça revient régulièrement dans les conflits de couple, la communication. Savez-vous quelle phrase déclenche plus de chicanes dans le couple? Donc, on parle de phrases, donc on parle de communication ici. Savez-vous quelle phrase va déclencher le plus la chicane chez un couple? Quelle est la phrase? tu ne comprends pas. Hein? Ça, c'est frustrant, ça. Tu ne comprends pas. Puis ça parle d'un problème de communication ici. Quand on voit l'autre qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on hausse le ton? Est-ce qu'on va crier? Absolument pas. Vous savez, dans le milieu pédagogique, les enseignants, tout ça, on se fait mettre pointer le doigt sur le nez, puis on se fait dire, écoute, s'ils ne comprennent pas, c'est parce que c'est pas clair ton affaire. Donc, il faut assumer cela. Il faut reformuler ce qu'on dit jusqu'à temps que ça soit clair, avec douceur, avec humilité, tendresse. On veut chercher à mieux s'exprimer. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, et ça, c'est tellement clé, c'est important. Savez-vous que 69%, hey, c'est quasiment 7 sur 10 de nos conflits, c'est simplement une préférence personnelle. C'est juste ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien de mal, les deux n'ont pas tort, les deux ont raison. C'est juste une question de préférence. Alors, imaginez, 69%, là. Et là, vous allez dire, puis en passant, ça ne change pas. Ça va continuer jusqu'à la fin de tes jours. Tu as des préférences, puis tu vas garder des préférences jusqu'à la fin de ta vie. Là tu vas dire, bien là, finalement, c'est pas tellement encourageant ton affaire, là. Mais il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Écoutez bien John Gottman, l'auteur des 7 principes pour faire fonctionner le mariage. Le gars a étudié des mariages depuis des décennies. Voici ce qu'il dit. Il dit, la raison pour laquelle ils sont indissolubles, ça ne se règle pas, ou perpétuels, est que personne ne se trompe sur la question. La question sur laquelle ils sont en désaccord est simplement une question de préférence. Personne n'a tort des deux conjoints, c'est juste une question de préférence. Par exemple, chez nous, ma femme, moi et ma femme, on a des préférences sur certaines affaires. Par exemple, ma femme a toujours chaud. Moi, j'ai toujours frette, comme on dit au Québec. Un nouveau mot que tu dois apprendre, frette. Toujours, ma femme a toujours chaud. Moi, j'ai toujours froid, tout le temps. C'est, hey, on a eu des chicanes à cause de ça. Moi, je descendais, puis je voyais le thermostat, puis ma femme en cachette ce qu'elle avait fait. Elle avait descendu ça à 19 ou 20. Je sais, elle m'écoute, là. Elle m'écoute. T'écoutes, non? Là, elle descend ça. Puis là, des fois, je passe dans le salon, puis là, je regarde le thermostat, elle dit, ah ben, Snoro, elle l'a descendu. Et là, moi, je le monte à 21,5. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais que chacun a des préférences, puis tu es pris avec ça pour le reste de ta vie, là. Ça ne change pas. Bien là, puis là, ce n'est pas une question d'âge, OK? Ce n'est pas une question d'âge. Je sais, le pasteur Dominique, là, qui va m'entendre à quelque part, là, va dire, ah, normalement, hein, c'est ça, c'est l'âge. Ce n'est pas l'âge. Sais-tu quoi? Mon gendre a le même problème, il y a bien des années, puis il a trouvé une solution, lui, puis je vais vous en parler tantôt. Alors, qu'est-ce que tu fais quand chacun a ses préférences? Puis ça ne changera pas. Tu fais quoi? Bien, on a la solution au psaume 34, 15 qui dit ceci. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Poursuis la paix chez vous. En d'autres mots, fais des gestes, gagnant-gagnant, donnant-donnant, parce qu'on sait que c'est juste une question de préférence. Puis c'est 69% des conflits des couples, imagine-toi, c'est une question de préférence. Donc, il faut jongler avec ça. Alors, trouve des manières de faire des compromis, donnant-donnant, gagnant-gagnant, de manière à faire avancer la paix dans ton foyer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? C'est pas réglé. On travaille là-dessus, c'est pas réglé. Là. C'est work in progress. Il y a encore des conflits un petit peu chez nous, mais ça s'en vient. Mais on a fait des compromis. Ma femme, par exemple, va comme encaisser un peu la chaleur de temps en temps. Mais elle fait son bout de chemin. Et moi, j'ai trouvé des trucs. Par exemple, quand je me couche le soir, je vous dis, quand je me couche le soir, bon, j'aimerais bien avoir 3-4 couvertes de laine sur moi, ça ne marche pas, ma femme va avoir trop chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai une robe de chambre que j'ai achetée, je pense que c'est Simon, je ne me souviens plus où. Une robe de chambre comme une grosse serviette, puis c'est long, c'est quasiment aux chevilles. Là. Je prends littéralement, je voulais l'emmener ce matin, je disais, ah, on n'aurait pas le temps. Fait que je voulais, écoute, je prends ma robe de chambre. J'ai tous les draps, là. J'ai les draps, j'ai la couverte, j'ai tout. Je prends ma robe de chambre, je la mets jusqu'ici. Oh, que c'est bon! Et là, j'ai un problème. J'ai froid aux pieds. Alors, qu'est-ce que tu fais, t'as froid aux pieds? Et hier soir, par exemple, je me recouche, puis mes pieds, c'était de la glace. J'ai lu à quelque part que, je pense que le médecin qui disait, si tu te couches et tu as tes pieds froids, tu vas mal dormir. Fait que c'est important d'avoir la température de la pièce. Mais là, moi, j'étais glacé. Fait que là, ce que je fais, je suis couché de côté. Je me colle à ma femme, à la jambe de ma femme. Ma femme est chaude. Chaude, c'est brûlant. Elle dit, oh, que ça fait du bien. Fait que là, je colle l'autre pied, mais là, j'étais comme, ben là, je ne peux pas passer toute la nuit comme ça. Fait que là, elle me demande, OK, Normand, puis regarde, ben, moi, ça me fait du bien. Elle dit, Normand, c'est bon, reste de même. Elle me demande, toi, ça doit faire du bien, c'est chaud, puis tout. Je dis, ouais, mais j'ai dit, par-dessus mon pied, c'est froid. Elle me retourne d'abord, elle me regarde, elle me dit, va mettre des bas. J'ai appris ça de mon gendre. Mon gendre en vingtaine. OK, pasteur Dominique, là, je ne sais pas ce que tu es, là. C'est pas une question d'âge. Mon gendre, dans la vingtaine, portait des bas pour dormir. Moi, je trouvais ça bizarre. Je dis, porte des bas pour dormir. Tu parles de la fête, toi. Mais sais-tu quoi? Ben là, quoi, G, t'es pas d'accord, quoi, hein? Pantoute, hein? Mais sais-tu quoi? Ça m'aide à m'endormir. Mais là, j'ai un problème parce qu'en plein milieu de la nuit, j'ai très, très chaud. C'est comme, c'est un cercle vicieux, il n'y a rien, on s'en sort pas. Mais c'est ça, c'est que tu fais un bout de chemin. Tu fais des compromis, pourquoi? Pour faire avancer la paix dans le foyer. Bon, c'est pas tout à fait réglé parce qu'il y a un gros, gros problème qu'on n'a pas encore réglé, c'est dans la voiture. Ah, ça, c'est tough. T'as bien beau avoir un thermostat à droite, thermostat à gauche. Moi, ça me prendrait un mur entre nous deux, tu sais, mettre ça à très chaud, 27 de mon bord, puis 19 ou 18 ou 17 de son bord, mais ça ne marche pas. En tout cas, deuxième, un autre conseil, troisième conseil, abordez vos conflits le plus tôt possible. Plusieurs études, d'ailleurs, c'est même dans la Bible, hein, va pas te coucher en colère, des études ont démontré, une vaste étude a montré que les couples qui restaient ensemble plus longtemps et qui ne se séparaient pas, qui ne se divorçaient pas, etc., discutaient généralement de leurs disputes presque immédiatement après qu'elle ait eu lieu. Et lorsqu'ils le faisaient, fais attention, lorsqu'ils le faisaient, ils s'approchaient généralement l'un de l'autre avec un esprit ouvert, en assumant la responsabilité de leurs actes. En d'autres mots, si je suis responsable de 30 % pour le conflit, bien, je vais assumer 100 % de mon 30 %. Et troisièmement, ils écoutaient les sentiments de leur partenaire. Maintenant, il y a quatre prérequis là-dedans. Premièrement, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut vraiment que tu sois humble et tu ouvres ton cœur. Tu ne peux pas comme être fermé et tout ça, parce que sans ça, l'autre, ça rend l'autre personne sur la défensive et tout ça. Il faut que tu ouvres ton cœur. Deuxièmement, il faut pratiquer une bonne écoute. C'est quoi une bonne écoute? Eh bien, une bonne écoute, moi, je me rappelle, de plusieurs années, j'ai suivi un cours, ça s'appelait Atelier de formation, communication et résolution de conflits. Et puis, je ne l'ai pas avec moi, je vais vous l'emmener. Là, il y a une diapo ici qui va suivre, qui montre le tapis. Ça, c'était le professeur, il nous avait pris comme deux gros tapis, là, comme ça, là. Puis, celui qui écoute, il devait être debout sur le tapis. Puis, c'est la personne qui parle devait être debout sur l'autre tapis. Alors, c'est le tapis de celui qui parle, puis le tapis de celui qui écoute. Hey, écoute, on était une trentaine dans la classe, puis tout ça. Puis, tu n'as pas le droit de parler, sinon juste refléter ce que l'autre vient de dire. Puis, tu ne dis pas, je t'ai compris. Ah, je te comprends donc. Ah, oui, je te comprends. Non, non, non. Tu dis, est-ce que je te comprends? Si j'ai bien compris. Et là, tu répètes, tu reflètes. On appelle ça refléter. Le professeur nous avait demandé, il dit, OK, là, ce que tu vas essayer de faire, c'est de cibler trois choses. L'expérience que la personne te raconte, son émotion, comment est-ce que ça se sentait face à cette expérience-là, et son comportement. Alors, sa réaction face à cette expérience-là, et comment il se sent. Et là, il fallait essayer de définir en une phrase le problème avec ces trois éléments-là. Et laissez-moi vous dire que c'était difficile. Parce que de temps en temps, tu es là, tu écoutes, puis là, tu veux comme... Non, non, c'était pas de même. Puis, c'est vraiment difficile. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité. Mais il faut se pratiquer. C'est difficile d'avoir une bonne écoute, mais il faut se pratiquer parce que c'est tellement, tellement important. Voici ce que Jacques 1,19 dit. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Alors, on ouvre notre cœur à l'autre. On travaille fort à développer une bonne écoute. Et troisièmement, on cherche à comprendre son conjoint. En d'autres mots, on l'étudie, on cherche à comprendre comment elle voit son monde et le monde, ce qu'elle vit, le monde à travers ses yeux, dans le fond. Quatrièmement, on règle nos conflits comment? À genoux. On met ça dans la prière. Alors, prendre soin de notre mariage glorifie vraiment le Seigneur, car c'est en cherchant, on cherche à persévérer dans l'amour quand on fait ça. Et une autre façon de glorifier le Seigneur, c'est en vivant dans le contentement. Verset 5 dit ceci, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Il y a un contraste vraiment intéressant ici avec le verset 1. C'est bizarre que juste là, on shoot ça comme ça. Faites attention à l'amour de l'argent. Puis le verset 1, ça dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Vous voyez? Vous voyez le contraste ici? L'amour fraternel, l'amour de l'argent. Il y a une raison pour que c'est ensemble. Ce n'est pas par hasard. Dieu a fait ça parce que Dieu sait que quand tu t'investis, et le problème n'est pas l'argent, le problème c'est avec l'amour de l'argent. Et lorsque tu es en amour avec l'argent, que tu veux toujours en faire plus, tu n'en as jamais assez, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un bris, tu vas rentrer en collision dans tes relations, ça va endommager les relations. Parce que tu vas t'investir à vouloir toujours faire plus d'argent, puis tu vas être difficile, dur, lorsqu'il y a des dépenses et tout ça, tu veux t'enrichir, tu vas mettre tes énergies, ton temps, tu vas t'investir dans ce qui va produire plus d'argent plutôt que de favoriser l'amour fraternel, plutôt que de t'investir dans ton mariage, plutôt que d'être sensible aussi aux gens persécutés, tout ça. Veux pas, c'est une question d'énergie, puis de passion. Alors, le contentement. Maintenant, on sait que l'argent va être un des sujets de conflit avec les couples. Et le Seigneur dit, ne tombez pas en amour avec l'argent. Moi, c'est comme un gars, le fils d'un père qui dit, fils d'un père qui envoie un message à son père. Il étudie assez loin, puis il dit ceci, « Cher père, l'école est super, je me fais plein d'amis et d'études fortes. Je ne pense à rien que je pourrais avoir besoin, alors fais juste m'envoyer une carte, car j'aimerais bien avoir de tes nouvelles. » Avec amour, ton fils. Quel est le message tellement subtil à l'intérieur de cette lettre-là? Et alors, son père a voulu lui donner une leçon, vraiment un enseignement. Il s'en est servi comme pédagogie. Alors, voici ce qu'il répond. Alors, prochaine slide. Cher fils, je sais que l'astronomie, l'économie et l'océanographie sont assez pour garder, vous avez compris, zéro dollar, occuper même un très bon étudiant comme toi. N'oublie pas que la poursuite de la connaissance est une noble tâche et tu ne peux jamais assez étudier. Avec amour, ton père, un signe de piastre, gros zéro. Combien le fils a reçu? Un gros zéro. Mais c'est ça, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent peut facilement nous distraire et nous faire agir avec un manque d'amour envers les autres. On va être de très pauvres amis pour des frères et des sœurs dans le Seigneur parce que toute notre énergie, notre passion va aller là. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que dans le livre aux Hébreux, cette promesse qui est donnée là, verset 5, Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, se trouve justement une citation dans Josué 1, alors que le peuple de Dieu veut entrer dans la terre promise, va entrer dans la terre promise. Dieu les a conduits jusque-là, et là, Dieu dit à Josué, ne t'inquiète pas, partout où tu vas fouler la plante de ton pied, je te le donne. Donc, Dieu ne nous appelle pas de vivre dans la misère. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Mais c'est de ne pas tomber dans l'amour de l'argent. Et moi, j'aimerais inviter les musiciens à venir ici présentement, pendant qu'on va clôturer tout ça. Dieu ne promet pas de grandes richesses ici sur terre, mais il nous prépare tout un héritage. Parce que le chapitre juste avant parle de cette cité céleste qui nous attend, que Dieu a préparée. L'auteur est en train de nous dire, fais confiance à Dieu. Tu ne peux même pas t'imaginer tout ce qui t'attend au ciel que le Seigneur a préparé. Lorsqu'on va voir tous les trésors au ciel que le Seigneur aura préparé, toutes les épreuves, les douleurs, les souffrances qu'on aura connues ici sur terre vont tranquillement s'atténuer, disparaître. Et à mesure que l'on connaît Dieu, on connaît comment il est et qu'on réalise quel point il est bon, miséricordieux, qu'on réalise sa fidélité, sa patience, sa générosité, on commence à découvrir le contentement. Dans son livre « Plaisir de Dieu », John Piper dit ceci, « La présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie étanche la soif, cette soif qu'on a toujours en dedans pour avoir plus. Eh bien, le Saint-Esprit qui vit en nous étanche la soif exacerbée de notre âme et fait de nous des fontaines où d'autres peuvent trouver la vie. » Et là, on pourra dire avec assurance ces paroles qui proviennent du psaume 118, cette citation au verset 6 d'Hébreux 13, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » Bien-aimés, apprenons à adorer Dieu en toutes les circonstances de la vie, à louer notre Dieu, à l'aimer de tout notre cœur parce qu'il est bon. Et comme on l'a vu tout au long de cette série, parce que Jésus est meilleur que tout. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous te louons de ce que tu es un Dieu digne de louange, à la fois parfaitement bon et incroyablement glorieux. Nous te remercions également, car te louer est pour nous une source de guérison. Cela clarifie notre vision des choses, change notre perspective, fortifie notre cœur et produit une joie indescriptible et qui va en grandissant avec l'aide de ton Esprit Saint. Te louer, t'adorer, c'est remplir notre cœur lourd du ciel. Aide-nous à te voir tel que tu es, Seigneur, pour que nous te louions comme on devrait. Au nom de Jésus. Amen.